Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, le vote des citoyens arabes israéliens a été une surprise à plusieurs titres lors des dernières élections de septembre. D'abord au niveau de la participation, puisque plus de 60% des électeurs arabes ont exprimé leur suffrage contre 49% lors du précédent scrutin en avril. En plus, avec 13 députés, la liste arabe unifiée devient le troisième parti en nombre d'élus à la Knesset. Devant, on trouve le parti blanc-bleu de Gantz qui obtient 33 sièges et le Likoud de Netanyahou qui en obtient 31. Plus surprenant encore, 10 députés arabes de la coalition ont fait savoir au président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qu'ils apporteraient leur soutien à Benny Gantz pour former un gouvernement. Mais cela ne lui a pas suffi pour rassembler une majorité de 61 députés à la Knesset. À l'heure où je vous parle, le pays attend toujours la constitution d'un cabinet exécutif, car Netanyahou ne parvient pas à réunir une majorité. Quelque chose est-il en train de se passer dans la société arabe? Soulignons qu'elle représente 2 millions d'habitants sur un total de 9 millions, soit 21% de la population du pays. Nous allons demander à Amir Badran de nous commenter cette réalité électorale et sociale. Amir Badran est avocat au barreau d'Israël, conseiller municipal de la ville de Jaffa, Yafo en hébreu, où il réside.
Il faut comprendre d'abord les chiffres et après comprendre qu'est-ce qui a été fait pendant cette campagne électorale, qui était très spécifique à cette campagne électorale, pour justement vous répondre à cette question qui va être découpée à plusieurs volets. Donc il faut comprendre qu'on est en train de parler de 2 millions d'Arabes vivant en Israël.
Oui, c'est ce que je viens de dire.
Et parmi eux, il y a 1 million qui ont le droit de vote.
Oui.
Donc potentiellement, les Arabes vivant en Israël, si tout le monde va voter, on est en train de parler de 24 sièges au sein du Parlement qui compte en tout 120 parlementaires. Le but principal de cette campagne électorale concernant les Arabes, c'est-à-dire les parlementaires arabes, c'était d'accroître le taux de vote qui, justement, il était à 49% dans les dernières élections qui ont eu lieu en avril 2019, et que cette fois-ci-là, on est arrivé à 65%.
C'est une grosse augmentation.
Une très grosse augmentation, ce qui nous ramène, en fait, au résultat qui était en 2015 pour la première fois lorsque a été installé un seuil d'éligibilité qui a été posé par le gouvernement. Mmh. Ce seuil d'éligibilité a été fixé à 3% écart. Mmh. Et ce seuil d'éligibilité, d'ailleurs, qui a été proposé et une loi a été faite, était par Lieberman, c'était en fait justement fait en tant que politique qui veut exterminer les petits partis et plus spécifiquement les partis arabes.
C'était une loi pour
obliger en fait.
Ouais, c'était une loi pour éviter
effacer de la. Ouais.
C'était une loi pour c'était une loi pour éviter les dérives de la proportionnelle parce qu'on avait plein de petits partis qui commençaient à faire la loi quoi. Voilà. Ça touchait aussi les partis juifs, d'ailleurs.
Mais quand cette loi a été proposée, elle a été proposée par M. Lieberman et elle avait un but très spécifique qui voulait atteindre et toucher les partis arabes. Et cela les a forcés, en fait, de se réunir, de se regrouper, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Soit ils disparaissaient, soit, en fait, ils se réunissaient. Et ce qu'a fait M. Lieberman, lui est revenu comme un boomerang, c'est-à-dire qu'au lieu de ne pas avoir des partis arabes au sein du Parlement, en fait, il a eu un très grand parti arabe dans une liste commune. C'est ainsi que la liste commune s'est formée, La première fois qu'elle s'est formée, c'était en 2015. Et là, en 2019, dans ces dernières élections, on a repris le modèle de la liste commune qui est formée des quatre partis membres qui, chacune parmi elles, a gardé son identité, mais se sont regroupées sous un seul toit, sous une seule liste. Donc on est en train de parler, pour ceux qui ne connaissent pas cette liste, mais pour expliquer un peu de quoi est-ce qu'on est en train de parler, il s'agit de Hadash. Hadash, c'est la partie d'extrême gauche.
C'est l'héritier du Parti communiste israélien.
Exact. Avec d'autres forces radicales gauche qui se sont unifiées ensemble. Mmh. Il s'agit de Balad et du Parti islamique, et ainsi que du parti présidé par le docteur Tibi. Donc ce sont les quatre partis membres de cette liste commune. Et en fait, souvent on tombe dans un piège, on est en train de parler de la liste arabe, mais en fait elle ne l'est pas. Ce n'est pas une liste arabe, c'est une liste, et elle n'est pas une liste arabe unifiée, c'est une liste commune. C'est vrai qu'il y a une grande partie arabe de ces quatre membres, mais comme je dis, Hadash, et le plus grand parti, il fait 40% de cette liste, et c'est un parti qui est juif et arabe, qui prône à la démocratie, qui prône à l'égalité de droit entre arabes et juifs, qui refusent d'être amis, mais qui voient leur avenir ensemble dans ce territoire.
Alors,
ce qui était très, très important de parler, justement, revenant à votre question, c'était en fait cette campagne électorale, la dernière campagne électorale, qui était caractérisée par une attaque contre les citoyens arabes. C'est une attaque, c'est pas n'importe quelle attaque, mais une attaque qui était menée par le premier ministre même, par Monsieur Netanyahou, et qui est justement à la base de cette très forte participation des Arabes aux ces élections. Et je vais expliquer comment.
D'accord. Oui, j'ai une autre question à vous poser là, justement pour vous allez voir, on reste dans le sujet. Suite aux résultats des élections, il y a eu 13 députés de la liste arabe unifiée qui ont été élus à la Knesset. Et il y a 10 députés qui ont apporté leur soutien à la candidature de Gantz, le leader du parti bleu-blanc, pour constituer un gouvernement. Je crois que depuis la signature des accords d'Oslo, ça n'est jamais arrivé. C'était en 1993, ce n'est jamais arrivé qu'un parti arabe soutienne un candidat au gouvernement. Qu'est-ce qui a motivé ce soutien à la candidature de Gantz? Pourquoi les partis arabes de la liste unifiée ont décidé de soutenir la présentation de Gantz devant le président de l'État d'Israël?
Oui, c'est une question importante, mais seulement permettez-moi de continuer à vous répondre sur est-ce que le vote...
Vous savez, Amir, on a 12 minutes, Amir. Si vous étendez trop sur certains points, vous ne pourrez pas répondre à cette question.
Non, mais permettez-moi de vous terminer à ce point-là, parce qu'il est très, très important pour vos auditeurs, parce que c'est important à comprendre quelle était cette campagne électorale et comment est-ce qu'elle a affecté les élections arabes. Alors, si vous me permettez, en quelques mots, les propos qui ont été tenus par le Premier ministre, M. Benjamin Netanyahu, c'était, je vais vous donner trois exemples frappants. Le premier, c'est des propos comme « les Arabes nous volent les élections ». C'est-à-dire que le Premier ministre a avancé un projet de loi voulant installer des caméras dans les urnes situées villes.
Amir, là on sort du sujet. Soyez gentil, répondez à ma question. Est-ce que, parce que le temps passe, on n'a que 12 minutes,
Vous m'avez demandé comment est-ce que
D'accord.
On ne sort pas du question. Si vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire...
Bien sûr que je veux entendre. Si vous refaites toute l'historique des campagnes... Allez-y.
Pourquoi est-ce que le vote a continué à être comme ça? C'est sur la page Facebook de M. le Premier ministre, un post qui décrit, dit comme ça, « Les Arabes veulent nous exterminer, femmes, vieux et enfants ». Et c'est des propos racistes sur lesquels Bibi Netanyahu n'a trouvé aucune raison de s'excuser. Et le troisième exemple, qui est un exemple aussi frappant pour vous répondre à votre première question très très importante, c'est celui de la campagne électorale de 60 000 euros qui était qui est financé par un juif colon dans les villes et villages arabes uniquement, incitant les Arabes de ne pas participer aux élections.
Financé par qui ? Par qui ? Financé par qui ?
D'autres exemples nombreux. Alors maintenant, deuxième question.
Financé par qui, vous avez dit ?
Par un juif colon.
Un juif colon, un Israélien colon.
Ouais. Un juif israélien colon. Ouais. Mm-hmm. Exactement. Vous pouvez regarder ça aussi sur Haaretz. Ça a été publié sur le journal Haaretz. Et il y avait aussi un programme télévisé tout là-dessus. Donc, si vous voulez trouver les origines. Maintenant, pour votre deuxième question, Paul. C'est la première fois, c'est vrai, qu'on a recommandé. Ce n'est pas un soutien, c'est une recommandation. On est en train de parler de la première étape. Donc, la recommandation a été faite par la liste commune. Au départ, elle était faite par les 13 députés, c'est-à-dire que la lettre de recommandation qui a été posée devant le président était celle des 13 députés. Seulement, les 3 députés de Balade ont demandé de retirer leur recommandation. C'est ça les faits et les données. Maintenant, la liste commune a donné cette recommandation sous condition, c'est-à-dire qu'un papier, des demandes ont été envoyées à M. Gantz, et il y avait des pourparlers avec celui qui était le représentant de M. Gantz, qui s'appelle Ofer Shelah de son mm-hmm. parti, en disant, voilà, nous sommes le troisième plus grand parti, nous faisons 20% de la population israélienne, et on a des besoins qui sont spécifiques à notre société, et c'est très important, c'est maintenant le gouvernement qui va se former, dans sa politique, tient en compte nos besoins. Et voilà, c'est ça ce qui est arrivé. Pour l'instant, on n'a pas eu des réponses de M. Gantz. Et la situation est telle aujourd'hui, telle que vous le savez, qu'il n'y a pas encore un gouvernement qui a pu se former. M. Benjamin Netanyahu a essayé, il n'a toujours pas trouvé les moyens. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'il va faire M. Benjamin.
D'accord. Une dernière question, là, vraiment très très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas 30 secondes. Là. Si des fois on arrivait Bleu-Blanc et Gantz arrivaient à former un gouvernement, est-ce qu'on pourrait y voir des députés arabes ? Ou des ministres arabes, pardon.
Si Bleu-Blanc, pardon, je ne sais pas bien...
Carole Lavanne, Bleu-Blanc. Et oui. Si des fois Gantz, il arrivait à monter un gouvernement, est-ce qu'il pourrait y avoir des ministres arabes ?
À mon avis, non. La réponse est non. Et la réponse est claire pourquoi non. Parce qu'en fait, lorsque le gouvernement israélien veut prendre une position justement concernant une guerre qu'il veut lancer contre qui que ce soit, contre à Gaza ou en Cisjordanie, les ministres arabes ne peuvent pas être ministres dans un tel gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas accepter lever la main pour une telle action. Ça doit vous être très très, très normal. Donc, mais ceci dit, le parti, la liste commune dit, nous sommes d'accord de faire des concessions et nous sommes d'accord d'être un acteur dans cette scène politique, mais un acteur qui essaye de faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'on est là, on est d'accord à soutenir ce gouvernement ou à soutenir un tel bon candidat, bien sûr sous conditions telles que le papier qui a été posé, et en même temps de ne pas laisser le gouvernement s'écrouler, c'est-à-dire de pouvoir arrêter une motion de censure qui peut émaner de l'opposition.
Ok, merci beaucoup Amir Badrane, on a passé le temps, je vous dis à bientôt, voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne célébration de Kippour et du courage pour tous ceux qui jeûnent. Compte tenu des fêtes de Tichri, on se retrouve pour une nouvelle émission lundi 4 novembre à la même heure. C'était Paul Ouzimeyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.